Sunday Night Production.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue sur le premier épisode du tout nouveau podcast Dans la tête d'un cycliste. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous partager ma conversation avec celui qui vient tout juste de terminer premier français sur le Tour de France 2020, mais aussi meilleur grimpeur de la Vuelta. Celui aussi et surtout qui a été un équipier de luxe, un équipier modèle, pour que Julian Alaphilippe remporte le titre de champion du monde. Guillaume Martin est un coureur cycliste professionnel français, membre de l'équipe Cofidis, mais aussi auteur. Dans cet épisode, nous allons revenir au parcours cycliste de Guillaume dès sa plus jeune enfance et vous comprendrez alors qu'il ne sort pas de nulle part. En août 2014, il entre dans l'équipe FDJ.fr en tant que stagiaire professionnel. En 2015, il remporte de magnifiques classiques du cyclisme amateur, Annemasse Bellegarde et Retour, Liège-Bastogne-Liège Espoir, une étape du Tour de l'Avenir. En fin d'année, n'ayant aucune offre concrète des équipes françaises, il signe un contrat de 2 ans avec l'équipe continentale professionnelle belge, Wanty Group Gobert. Nous allons échanger sur ses 5 années de professionnalisme et ses 4 Tours de France, dont le dernier. Bien évidemment, nous échangerons également sur le titre de Julian Alaphilippe et la stratégie mise en place sera partie intégrante de notre échange. Aussi discret que performant, celui qui ne se fixe aucune limite nous partage les dessous d'une saison où il a explosé aux yeux du grand public. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse entrer dans la tête de Guillaume Martin.
Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un cycliste, une émission dédiée à tous les passionnés de vélo sous toutes ses formes. Chaque semaine, Arnaud Mandianini part à la rencontre de celles et ceux qui font le cyclisme pour nous inspirer et nous aider à nous améliorer.
Bonjour Guillaume, bienvenue sur le podcast. Est-ce que tout va bien pour toi ?
Bonjour, oui, tout va pour le mieux. Ouais, je suis en période de coupure et je profite de ces moments de repos.
Eh bien écoute, tu vas nous expliquer tout ça. En tout cas, je suis honoré de t'accueillir sur ce premier épisode, le podcast hein, Dans la tête d'un cycliste qui vient justement de voir le jour et dont tu es le premier invité. Bienvenue, merci d'avoir accepté l'invitation, merci du temps consacré. Et au passage, je remercie Delphine qui se reconnaîtra pour la mise en relation. Alors la première question moi, que j'ai envie de te poser, Guillaume, c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cycliste qui vient de terminer meilleur grimpeur du Tour d'Espagne ?
En fait, je ne suis pas vraiment à m'arrêter sur l'événement, à me satisfaire de la performance accomplie. Je passe directement à autre chose. Et là, en l'occurrence, je suis passé à une période de coupure. Donc, j'ai profité du repos et je ne me suis certainement pas auto-célébré. Donc, voilà, je pense qu'un cycliste, en tout cas moi je suis toujours dans l'événement d'après.
Pour toi, c'était juste une étape que tu devais valider? C'était quelque chose qui devait arriver à un moment donné et puis ensuite tu vois plus loin? Comment c'est arrivé? Comment tu l'as pris en fait ce résultat? C'était pas un aboutissement, je veux dire. C'était pas un aboutissement, c'était une étape de plus à valider pour l'avenir.
Oui, voilà, une étape de plus, podium final sur un grand tour, donc ça a de la valeur. C'était pas l'objectif initial sur cette Vuelta, ça l'est devenu. L'objectif de base était de remporter une victoire d'étape. Ça n'a pas été le cas, même si je suis passé pas très loin. Mais ce maillot de meilleur grimpeur peut, par certains aspects, avoir justement l'apparence d'une victoire.
C'est clair. On va revenir un peu plus en détail ensuite hein, sur le Tour de France et le Tour d'Espagne en particulier. Mais j'aimerais également qu'on rembobine un petit peu ton parcours de cycliste. Comment est-ce que la découverte du vélo est arrivée pour toi et cette passion a grandi ? Est-ce que tu as fait l'école de vélo, le parcours classique d'un cycliste qui connaît le cyclisme depuis le plus jeune âge ou c'est arrivé un peu plus tard à l'adolescence ?
J'ai pris ma première licence en minime, donc à 12-13 ans. Après, j'aimais le cyclisme, le vélo avant ça et j'ai toujours aimé de manière générale le sport surtout. Donc, dès tout petit, le sport et la compétition. Donc, dès tout petit, je faisais des courses entre moi-même, je me chronométrais, je faisais le tour, il y a 2 cours chez moi et je faisais le tour des 2 cours et j'essayais toujours de battre mon temps. voilà, avec mon frère, il y avait beaucoup de rivalités sportives aussi, avec mes parents également. Donc,
tu as un frère qui est cycliste ?
Non, pas du tout. Il fait tout à fait autre chose maintenant. Il a fait du rugby à une époque, donc on n'avait pas du tout les mêmes physiques. On n'a pas du tout les mêmes physiques. Mais il avait 2 ans et demi de moins que moi. Mais voilà, il est plus grand que moi, donc il pouvait en tout cas rivaliser. Et quand on se battait, il pouvait donner le change sans problème. Donc voilà, c'était des bons moments. Puis on s'imaginait, voilà, quand c'était la période de Roland Garros, on faisait du tennis. Donc, la période de Paris-Roubaix, on faisait notre Paris-Roubaix. Quand c'était les Jeux Olympiques, on s'imaginait que c'était nos Jeux Olympiques. Donc, voilà, des jeux d'enfants.
Donc toujours une attirance pour le sport. Et tu as également fait une section sport-études. C'était déjà en cyclisme quand tu étais en sport-études ?
Oui, c'est ça. Ça, c'était au lycée. Donc j'avais déjà pris mes licences. Et donc j'ai dû y entrer en peut-être KD1, voire minimum 2, puisque j'avais un an d'avance à l'école. Donc, voilà, ça a été un moment important aussi de mon parcours au lycée de Flers, avec un entraîneur notamment, M. Bruno Lepape, qui a beaucoup compté dans mon parcours. Donc voilà, ça a été une étape importante aussi.
Quand tu dis que ton entraîneur Bruno Lepape a beaucoup compté dans ton parcours, c'est-à-dire qu'il t'a inculqué les bases, c'était un mentor pour toi, et les valeurs, en tout cas les valeurs qu'il t'a apportées sont toujours présentes, et peut-être que tu repenses souvent à ça.
Oui, bah c'était voilà, un esprit de camaraderie aussi avec les autres élèves, et puis c'est là où j'ai commencé à faire du vélo et à m'entraîner sérieusement, et donc en étant bien encadré par quelqu'un qui aimait le sport, le vélo, et qui aimait ses élèves. Donc voilà, ça a été des belles années et un bon point de départ.
Des belles années dans une ambiance, dans ce que je ressens, plutôt bienveillante, en tout cas un peu protecteur par cet entraîneur. Et puis ensuite, donc, tu as parallèlement continué le cyclisme et les études, puisque tu as fait des études en philosophie, tu as obtenu un master à l'Université Paris-Nanterre. Comment tu as réussi cet équilibre qui est toujours délicat pour un sportif passionné, mais aussi qui étudie très très bien? Comment tu as réussi cet équilibre entre la vie d'étudiant et la vie de sportif?
Justement, vous avez dit le mot passionné. Je pense que c'est déjà le point de départ. Quand on aime ce qu'on fait, c'est déjà plus facile. Donc j'ai fait de la philosophie vraiment sans idée de métier derrière la tête, et simplement parce que j'aimais ça, et je faisais du cyclisme parce que j'aimais ça. Et donc voilà, je vivais pas ces deux choses-là donc comme des contraintes, et donc c'était plus facile. Alors après, j'avais peut-être aussi des facilités à l'école, j'ai toujours plutôt bien appris, et après c'est une histoire d'organisation aussi. Et puis il y a des dispositifs, voilà, vous avez parlé du sport-études, c'est des dispositifs qui aident à concilier les deux choses. Et de la même manière, mon master, j'ai pu le faire en formation à distance. Donc voilà, c'était une facilité pour pouvoir me déplacer en France entière ou dans les sélections nationales.
Donc là déjà, quand tu passes ton master, Guillaume, tu es déjà un haut niveau cycliste. Tu es déjà dans les sélections nationales chez les juniors.
Chez les espoirs même. C'était voilà, je devais avoir 21-22 ans, donc c'était, mais voilà, j'étais au niveau DN1, donc effectivement plus au niveau amateur et stagiaire professionnel, et j'ambitionnais déjà de passer professionnel.
Alors quand tu obtiens ton master, Guillaume, qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un cycliste, on peut le dire comme ça, qui vient d'obtenir son master et qui a un grand espoir du cyclisme français? Est-ce que pour toi le cyclisme, l'envie d'en faire un métier est déjà présent en toi, ou est-ce qu'il va s'affiner au fil du temps?
C'est quelque chose qui a grandi au fur et à mesure, mais voilà, les dernières années amateurs, forcément, quand on est au plus haut niveau amateur, on est déjà quasiment professionnel dans son mode de vie. Donc évidemment que je m'appliquais à fond et que j'ambitionnais de passer pro. Oui.
Bon, il y a déjà des belles, la dernière année amateur, hein, c'est des belles victoires, hein, Annemasse, Bellegarde et retour, que j'ai eu moi l'occasion de faire à 2 reprises en tant qu'amateur, donc Généralement, celui qui sort vainqueur de cette épreuve termine effectivement, en tout cas monte un échelon supérieur. Il y a également Liège, Bastogne, Liège, Espoir. Une étape du Tour de l'Avenir, donc une très très belle saison, dernière saison amateur. Moi, la question que j'ai envie de te poser, Guillaume, à ce moment-là, c'est qu'est-ce qui fait que tu sois parti pour une équipe continentale professionnelle belge et non pas française ? Est-ce que tu as eu des équipes françaises qui se sont manifestées ? Et est-ce que ton choix s'est porté sur une équipe belge ou est-ce qu'il n'y a pas eu d'équipe française qui s'est manifestée ?
Non, j'ai pas eu beaucoup de choix malgré ce palmarès qui aurait dû me permettre de passer pro assez facilement. J'avais beaucoup de contacts avec des équipes, quelques équipes françaises et finalement beaucoup d'équipes étrangères, internationales surtout, mais peu de propositions et j'ai voilà, la saison a avancé et je voyais que j'avais toujours pas de proposition, donc c'était assez inquiétant. Donc j'ai pris la première proposition qui est venue et presque par défaut. Alors après, a posteriori, je me dis que c'était vraiment la meilleure chose qui pouvait m'arriver, puisqu'ensuite dans cette équipe j'ai pu grandir à mon rythme et on m'a très vite fait confiance. Mais sur le moment, c'était voilà, sans que je puisse encore aujourd'hui me l'expliquer, parce que En France, il y avait voilà, il y avait pas de vraies propositions.
Est-ce qu'on peut mettre le mot frustration en face de ça ou pas ? Pour toi, tu l'as vécu comme une frustration ou tu es tout de suite passé à autre chose et tu t'es dit je ferai mes preuves sur le vélo ?
Bah, sur le moment, en tout cas, c'était plus que de la frustration, c'était de l'inquiétude parce que je me disais qu'est-ce que je dois faire de plus pour montrer que j'ai ma place et je venais d'avoir mon master, donc mon parcours scolaire était théoriquement fini, ou en tout cas je m'étais pas réinscrit dans une autre école et j'avais pas imaginé de plan B, donc voilà, il y a eu quelques semaines où un peu d'inquiétude, ouais.
Alors effectivement, moi je me souviens, tu es passé donc professionnel chez Wanty Group Gobert, l'équipe belge, et à ce moment-là, si ma mémoire est bonne, tu étais en région lyonnaise, c'est bien ça?
Oui, je venais d'y arriver, je pense.
Pas très très loin, et donc la fameuse personne dont on va parler tout à l'heure, qui est notre ami commun, dont je t'ai parlé avant de prendre les micros, moi je me souviens très bien d'un soir autour d'un repas avec cette personne, il m'a dit « Je m'entraîne avec un jeune qui vient de passer professionnel et croyez-moi, il va aller loin. » Et ça m'a vraiment marqué parce que donc on s'est tous intéressés à toi, tu vois, en allant voir qui tu étais parce qu'on ne te connaissait pas. Et donc ça m'a marqué, donc je te dirai tout à l'heure quelle est cette personne, mais en tout cas voilà, moi j'ai commencé à te suivre dans les années effectivement 2016, où tu arrivais donc chez les professionnels, et pour toi comment ça s'est passé derrière, comment tu l'as vécu? Alors j'imagine que tu t'es dit, je m'assois sur mon expérience et tout ce que j'ai construit par le passé pour développer de nouvelles compétences, mais comment ça se passe l'arrivée dans un peloton professionnel pour un cycliste amateur?
Bah déjà, la particularité, c'était que j'arrivais dans une équipe où je connaissais voilà, à peu près personne, vraiment. Donc voilà, il y avait une petite... voilà, il fallait prendre ses marques et j'ai de suite été très bien accueilli par les coureurs ou le staff de Wanty. Donc ça s'est de suite très, très bien passé. C'est l'ambiance belge où voilà, on sait faire la fête et les relations sont faciles et agréables. Donc j'ai de suite été adopté, on va dire. Et ce qui était assez particulier, c'était qu'en fait, après quelques semaines d'entraînement dans l'hiver de ma première année pro, j'ai eu une douleur au genou qui est apparue, très handicapante à tel point que je pouvais plus rouler. Donc
et je crois qu'elle est... Elle est apparue très tôt dans le début de saison, je crois.
Hein, c'est ça ? Avant même en fait que mon contrat commence officiellement au 1er janvier. Donc je suis arrivé au 1er janvier et j'étais déjà inapte à la compétition, donc et même à l'entraînement. Donc voilà, certaines équipes auraient pu se dire, certains dirigeants auraient pu se dire, voilà, mauvaise pioche ou voilà. Un peu m'en vouloir alors que j'y étais bien évidemment pour rien et là on m'a fait confiance, on m'a renvoyé vers les bons spécialistes, un chirurgien spécialiste du genou en Belgique qui a opéré beaucoup de cyclistes et qui a réussi à trouver le problème que j'avais parce que j'arrivais pas à trouver le problème et finalement donc j'ai été opéré début février Et donc, j'ai repris la saison un peu plus tard que prévu, un mois sans vélo, ensuite un mois à peine d'entraînement avant la première course. Donc là, ça nous amène à fin mars, début avril. J'ai pu reprendre au circuit de la Sarthe début avril comme la première course pro. Mais voilà, ça s'est bien passé parce qu'on m'a fait confiance, parce qu'on ne m'a pas mis de pression, mais... ça aurait pu, là aussi, mal se passer.
Et quel était ce problème, Guillaume, au genou? Parce que c'est vrai qu'un cycliste, à mon niveau, en tout cas, on assimile un problème de genou, on assimile ça à un problème de position, généralement. Et là, en l'occurrence, pour toi, ça venait de quoi?
Il y a plusieurs hypothèses pour savoir de quoi ça venait. Je ne sais pas vraiment encore. Peut-être un peu trop de musculation, trop de... On m'a dit peut-être la tension du cuissard long sur la rotule. Enfin, voilà, il y a plusieurs hypothèses. Toujours est-il qu'il a fallu, on a trois fascias, pour tout vous dire, sur le dessus de la rotule et qui peuvent rentrer en friction. Et ça a été le cas chez moi. Enfin, c'est vraiment une pathologie spécifique aux cyclistes de haut niveau. Et donc, j'ai enlevé ces fascias. Donc, voilà ce qu'a fait le chirurgien, et depuis j'ai plus aucun problème.
Donc effectivement, tu débutes sur le circuit de la Sarthe, ta première épreuve professionnelle, et puis derrière tu es tout de suite lancé dans le World Tour, hein, Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, que tu avais gagné en amateur l'année d'avant. Et là c'est pareil, hein, mes questions sont très orientées sur comment tu l'as vécu de l'intérieur, mais bon, j'imagine que la différence de rythme doit être très impressionnante. Tu te souviens des émotions qui t'ont traversé à ce moment-là?
En fait, les émotions, elles ont été un peu étouffées par le fait que voilà, c'était une reprise très particulière, puisqu'en fait, entre mi-décembre et début mars, ensuite j'ai roulé pendant 3 semaines à vraiment comme un cyclo, à 26-27 de moyenne, parce que je pouvais pas forcer, j'avais mal au genou encore des suites de l'opération. Et donc, j'ai fait peut-être une semaine à pouvoir m'entraîner normalement, on va dire, avant le départ de la course. Donc, j'étais surtout un peu dans l'inconnu, à me dire est-ce que je vais réussir à tenir le rythme. Et finalement, assez vite, enfin, je suis un coureur qui revient assez vite en forme. Donc, j'ai réussi à... Alors, avec si peu de préparation, j'ai évidemment pas fait de miracle, mais j'ai réussi à finir mes courses et à monter en pression peu à peu. J'ai fait beaucoup de... Je crois que dans mon premier mois de compétition, avec si peu d'entraînement, j'ai fait 15 jours de course. J'ai énormément enchaîné avec des courses de très haut niveau, comme au niveau Pro Tour, hein, comme effectivement la Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège. C'était en plus l'édition où il y avait de la neige, dans des conditions épiques. J'avais enchaîné sur le Tour de Romandie, pareil, sous la neige à la suite. Donc, après ce bloc, j'étais vraiment très fatigué, mais j'avais réussi à finir toutes mes courses, même sur une course comme le Tour du Finistère. Je crois que j'avais une petite place, ou en tout cas, j'avais été actif. Donc voilà, c'était encourageant. Et voilà, je pense que c'est là aussi que j'ai vu que j'avais vraiment ma place à ce niveau-là, et que de belles perspectives pouvaient s'ouvrir, parce que sans préparation, pour ma première année chez les pros, j'arrivais à être là, quoi.
Et en plus, comme tu l'as dit, tu es monté en puissance surtout sur la deuxième partie de la saison, avec le Tour d'Autriche, le Tour de Grande-Bretagne, le Tour de l'Ain, où tu te montres vraiment à l'avant de l'épreuve. Et donc, tu enchaînes ta deuxième saison. Donc là, j'imagine que tu l'avais mieux préparé, sans cette douleur de genou, hein, une ouverture au Grand Prix de la Marseillaise.
Oui, bah, c'est sûr que ça a été une période particulière, puisque avant ça, en fait, j'avais fait mon premier tour déjà, où ça s'était... voilà, oui, c'est amusant de faire de rembobiner comme ça, puisque je suis pas tellement à tourner.
je t'y oblige.
Et j'oublie à quel point ça a été vite. Voilà, dès ma deuxième année pro, je participe au tour. Je suis là aussi acteur de la course, et je termine aux portes du top 20 au général, après avoir fait troisième sur l'une des toutes premières étapes de montagne, moyenne montagne. Après j'ai fini ce tour assez fatigué, mais j'ai ensuite vraiment, ce tour m'a fait franchir un cap, et effectivement à partir du mois d'août et surtout la fin de la saison, j'étais très très performant et j'ai enchaîné je crois 5 victoires en 1 mois et demi de mois, donc
et surtout des victoires sur des classements général, c'est ça qui est aussi qui peut faire aussi la différence. Il y a le fait de gagner une épreuve d'un jour ou une épreuve en ligne, mais là tu as remporté des classements plusieurs classements général et là aussi je pense que ça doit être un signe. Tu as dû prendre une énorme confiance en toi, ou ça a dû aussi te donner des réponses à tes questions. Mais je pense que aussi l'encadrement qui t'a fait confiance devait être pleinement
bien
satisfait.
Sûr, c'est sûr que pour Wanty, c'était un peu un pari de prendre un coureur français. Et puis assez vite, j'ai pu répondre présent. Et je pense qu'ils ont su voir aussi le potentiel que j'avais. Et en me mettant, en me donnant de la confiance assez vite et en me donnant des responsabilités, donc montrer que j'étais capable de gagner très vite chez les pros, ça a été important et ça a été une manière de redonner la confiance qui m'avait une première fois été accordée. Et oui, gagner des classements généraux, alors c'est amusant parce que chez les amateurs, j'en ai de mémoire pas gagné ou peu, et chez les pros, voilà, j'avais remporté le tour du Gévaudan, le classement général et étape, et le tour de Toscane, classement général et étape également sur ce mois et demi de ma deuxième année pro, tour de Toscane en battant Nibali et Bernal, qui était jeune à l'époque.
Après, moi, quand je vois ta saison, j'ai envie de te demander justement, quand tu fais comme ça 2016, 2017, 2018, est-ce qu'au fur et à mesure que les années avancent, est-ce que tu revois tes objectifs avec tes coachs, avec l'encadrement de l'équipe professionnelle? Est-ce que tous les ans, c'est le curseur qui est remis un peu plus haut, ou est-ce que c'est des choses qui peuvent évoluer en cours d'année?
Non, on essaye de faire un bilan tous les ans. Voilà, j'ai quelques personnes de confiance qui m'accompagnent dans mon parcours. Mon agent Philippe Rimbaud, mon entraîneur actuel Samuel Belnou, qui m'entraîne depuis mes années au CC Etup, donc mes 2 dernières années amateurs. Et tous les ans, voilà, cette période, on fait un peu un bilan et on essaye de voir là où on peut s'améliorer. Et où,
mais ce que je veux dire, Guillaume, c'est que tes objectifs de l'année, est-ce que c'est toi tes objectifs de l'année, tu les fixes avec l'encadrement, ou est-ce que c'est vraiment une discussion avec le team du calendrier de l'année à venir?
Ça, avant tout, ça part de moi, ça part toujours du sportif. Donc, c'est à tout moi qui me fixe des ambitions, et ensuite c'est à moi de les vendre un peu auprès de l'équipe, mais c'est toujours ça se fait assez naturellement, puisque on veut tous la même chose et on veut tous
bien sûr. Donc après 2019, tu franchis encore un palier, puisque là il y a le Tour de France et une magnifique 12e place. À ce moment-là, donc tu t'engages à nouveau avec ton équipe, et puis l'équipe Cofidis arrive en fin d'année. Là, j'imagine que ça doit être un choix difficile pour quelqu'un comme toi qui a plutôt la tête sur les épaules, qui aime respecter ses engagements. Comment ça s'est passé à ce moment-là avec les déjà ta prise de décision? Est-ce que tu peux comme ça nous partager qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon allez, je vais vers une équipe française, hein, une équipe française qui, on en a parlé tout à l'heure, c'était pas forcément manifesté lors de ton passage chez les professionnels, alors que tu avais fait une année chez les amateurs exceptionnelle. Comment est-ce que c'est pour toi, ça a été un accélérateur?
Oui, effectivement, ça a été une décision difficile. Je suis toujours très attaché à l'équipe Wanty pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Après, à un moment donné dans mon parcours, je sentais qu'il fallait. Moi, j'avais envie de découvrir de nouvelles courses. J'avais envie de découvrir à 100% un calendrier Pro Tour, et avec Wanty à ce moment-là, il y avait encore toujours un peu le couperet de l'épée de Damoclès, de se dire peut-être qu'on ne sera pas invité au Tour, peut-être qu'on ne sera pas invité à telle course. Donc mon ambition, mon souhait, c'était de rejoindre une équipe Pro Tour, et c'est bien tombé puisque Cofidis passait dans cette catégorie à ce moment-là, et ils m'ont aussi tenu un discours séduisant, notamment Cédric Vasseur m'a tenu un discours qui m'a plu, ambitieux, Et voilà, je me suis engagé dans cette nouvelle aventure avec dans une équipe avec plus de budget, plus de moyens et donc ce calendrier Pro Tour et on voit que là cette année encore, j'ai réussi à franchir un palier à mon sens. Oui.
Qu'est-ce que ça change pour toi, Guillaume, dans ta préparation, que ce soit l'hiver ou en début de saison, même les épreuves de printemps, quand tu es dans une équipe où tu ne sais pas encore si tu vas faire le tour, puisqu'on attend une sélection, ou quand tu es dans une équipe où tu as la certitude de faire le tour, est-ce que ça change pour toi, Guillaume Martin, est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont tu abordes la saison à venir?
Bah, c'est un peu plus de sérénité, bien sûr. Quand j'étais chez Wanty, il y avait toujours un plan A et un plan B. Et donc là aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires et donc je peux travailler plus posément et sereinement. Donc
peut-être moins de pression aussi dans chaque épreuve même pour aller chercher des points, pour aller montrer peut-être le maillot. Peut-être il y a peut-être aussi ça pèse peut-être aussi sur le quotidien à chaque course.
Chez Wanty, j'étais obligé de courir beaucoup. Je faisais énormément de jours de course parce que effectivement, il fallait aller chercher des points pour l'équipe, il y a moins ces impératifs maintenant et donc je peux un peu plus me focaliser sur certains objectifs.
Mais c'est vrai que dans ce que tu expliques, tu es un coureur qui fait quand même toujours beaucoup de jours de course. Je crois même que cette année, encore en 2020, tu as un record de points, je crois, ou de nombre de jours de course. Il me semble que c'est assez important.
Oui, j'ai cru voir ça passer. Je suis dans le top 5. L'an dernier, je crois que j'étais troisième. Je vais être top 5, top 10. Donc, oui, je suis un coureur qui court beaucoup. Après, c'est parfois la volonté des équipes. Enfin, c'était le cas chez Wanty, mais avant tout, c'était ma volonté personnelle. C'est que fondamentalement, j'aime courir, j'aime la compétition. Enfin, je suis toujours cet enfant qui faisait des courses contre lui-même dans sa cour. Donc voilà, j'adore mettre un dossard et c'est ça qui me motive dans le vélo. Et c'est pour ça que je fais du vélo. C'est pas pour l'entraînement, c'est pour la compétition, pour l'affrontement. Et oui, on peut même parler presque d'addiction à ça. Oui.
Alors c'est vrai qu'on a un point commun, c'est que moi aussi j'adorais avec mes copains à l'époque faire le tour du quartier et à celui qui allait plus vite, mais vraisemblablement on n'avait pas la même génétique pour avoir le même palmarès. On va revenir, Guillaume, sur tes participations. Tu as dit, ou j'ai lu en tout cas dans différentes interviews que tu as données, que tu étais un coureur plutôt régulier. Et tu nous le prouves, si on prend notamment les participations au Tour de France, hein, 23e, 21e, 12e, 11e. Et qu'est-ce que ça nourrit en toi, ça ? Comment ça transpire, ces résultats, au fur et à mesure que les années passent ? C'est quoi ? C'est un objectif d'un podium ? C'est une victoire en général ? Comment ça se manifeste chez
comment
toi ?
Comment ça, par rapport au Tour ?
Par rapport au Tour, oui, tout à fait. Le fait qu'il y ait cette montée en puissance dans les résultats, en tout cas, hein, c'est 23e, 21e, 12e, 11e.
C'est vrai de manière générale sur mes sensations, sur mes valeurs de puissance, sur mes classements UCI. Enfin, voilà, tous les ans, je progresse et voilà, j'ai certainement pas envie de m'arrêter là. Après, de la même manière que je suis pas quelqu'un qui, par nature, est tourné vers le passé, je suis pas non plus quelqu'un qui est dans le rêve. Donc, je me dis pas, voilà, un jour, peut-être que je pourrais faire podium du Tour de France, peut-être que je pourrais faire top 5. J'avance, je continue de travailler et je me fixe pas de limite non plus et je vois où ça va me mener. Peut-être que je ferai jamais mieux que 11e du Tour et peut-être que je ferai podium, j'en sais rien. Ouais.
Ça, c'est intéressant ce que tu dis, Guillaume, sur la manière dont tu travailles. Est-ce que tu es un cycliste qui travaille beaucoup sur les datas ? C'est-à-dire qu'est-ce que tu regardes, dans le cadre de ta progression notamment, les datas évoluer ou est-ce que tu es plutôt un coureur sur les sensations ?
Je pense qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par les données de puissance, notamment les différentes données physiologiques. Je crois que c'est le cours naturel du cyclisme et du sport en général et pas ce qui me passionne en premier chef. Hein, je vous l'ai dit, il faut passer par là. J'ai un entraîneur très, très compétent surtout sur lequel je m'appuie pour pour ces choses-là.
Ce qui veut dire, Guillaume, que c'est parfois ton entraîneur qui te dit écoute, d'après les données, d'après tes données, là, tu es dans un pic de forme, donc tu peux prétendre à quelque chose. Ou inversement, là, écoute, Guillaume, d'après tes données, tu es plutôt dans un creux, donc n'attends pas à grand-chose, non ? Quelle est la relation avec ton entraîneur sur ça ?
Plus simple que ça, c'est-à-dire que les données, je les vois moi-même, donc je m'en rends compte. Et puis surtout, il faut toujours associer ces données-là brutes aux sensations. Et donc ça, c'est le sportif qui le fait. Et avec mon entraîneur, tout est assez clair et raccord là-dessus. Lui, sa philosophie, c'est justement de dire que les datas ne sont pas tout et que il faut évidemment les associer aux sensations et donc c'est pour ça qu'on est aussi très souvent dans l'échange et qu'on a des voilà qu'on s'appelle assez régulièrement parce que voilà entre ce que lui voit sur l'ordinateur de ma séance et ce que moi j'en ai ressenti c'est deux choses différentes et même si parfois il faut aussi réussir à aller au-delà du ressenti. Donc c'est quelque chose d'assez fin, mais en même temps d'assez naturel qui se fait dans le bon sens.
Alors c'est vrai que tu as 4 Tours de France en 5 années de professionnalisme. Alors est-ce que petit pour toi, comme tu l'as dit, tu es quelqu'un de passionné qui aime l'affrontement, est-ce que petit le Tour de France te faisait rêver ou est-ce qu'il s'est présenté à toi comme ça sans vraiment aller le chercher ? Qu'est-ce que représente pour toi le Tour de France, Guillaume?
J'aime quand même le vélo, donc forcément, quand on aime le vélo et quand on l'aime depuis longtemps, le Tour de France ça a une valeur particulière et une saveur particulière. Et donc, petit, justement, je pratiquais le sport, mais j'étais aussi un très grand spectateur de sport à la télé. Très, très vite, j'ai arrêté de regarder les bandes dessinées à la télé, je regardais le sport, c'était l'occasion de chamaillerie d'ailleurs avec mon frère pour le contrôle de la télécommande et donc voilà je me rappelle très bien moi très jeune regardant le Tour, regardant Paris-Roubaix aussi ou d'autres courses mais le Tour en particulier ça m'avait marqué. Oui,
et le Tour d'Espagne, puisqu'on va maintenant parler un peu plus spécifiquement du tout dernier Tour d'Espagne, donc où, pour ta première participation, tu termines 14e, mais aussi meilleur grimpeur. Donc effectivement, l'objectif, tu l'avais dit, ton objectif principal était une victoire d'étape, mais une fois que tu as eu le maillot sur les épaules, est-ce que justement, dès que tu l'as eu sur les épaules, l'objectif a tout de suite changé, ou est-ce que c'est vraiment pareil, arrivé naturellement ? Parce que je crois que tu l'as... Enfin, c'est pas je crois, c'est d'après ce que j'ai lu, tu l'as quand même vaillamment défendu.
Oui, à partir du moment effectivement où je l'ai eu, il fallait le défendre et ça m'a peut-être d'ailleurs handicapé dans ma course à la victoire d'étape puisque j'ai laissé beaucoup d'énergie à plusieurs reprises pour marquer des points en début d'étape ou pour prendre l'échappée en début d'étape et donc il me manquait un peu cette énergie à la fin. Donc voilà, j'ai réussi à gagner ce maillot et assez largement, donc ça c'est très bien. Alors après, ça m'a aussi handicapé pour autre chose, donc c'était aussi un peu un piège ce maillot, mais voilà, j'ai pas de regret du tout.
Quand tu dis ça t'a handicapé pour autre chose, on parle d'une victoire d'étape ou il y a d'autres choses où tu aurais aimé être plus performant ?
Pour la victoire d'étape, personnellement.
Le Tour d'Italie, c'est quelque chose que auquel tu aimerais te lancer, c'est un tour auquel tu aimerais participer ?
Oui, souvent eu des très bons résultats en Italie et c'est un pays qu'on aime tous.
Quand on aime le vélo, effectivement, on aime l'Italie.
Ouais. La vie en général aussi, on mange bien, les paysages sont jolis, enfin voilà. Et c'est aussi une course, le Giro, toujours très spectaculaire. Et donc, quand on est grimpeur aussi, une course... Qui fait rêver avec beaucoup de mouvements. Donc oui, j'imagine qu'un jour, j'aurai envie de l'inscrire dans mon programme. Ouais.
C'est vrai que le Giro est toujours spectaculaire. Il se passe toujours quelque chose. Et quand on est coureur cycliste comme ça et qu'on ne fait pas le Giro ou qu'on ne fait pas un grand tour, est-ce qu'un coureur cycliste professionnel regarde les étapes quand il n'est pas sur le vélo, soit pour l'entraînement, soit dans une autre compétition ? Mais est-ce que toi, par exemple, le Tour d'Italie, tu la regardes à la télé ? où le cycliste professionnel, en l'occurrence toi, ne regarde pas vraiment les autres courses professionnelles à la télé?
Bah alors ça, déjà, ça dépend des coureurs, mais pour ce qui me concerne, ça dépend aussi des moments et des autres choses que j'ai à faire. Avec le temps, je regarde un petit peu moins les autres courses, celles sur lesquelles je ne participe pas, parce que j'ai aussi d'autres activités, mais voilà, j'ai toujours plaisir à regarder une course de vélo.
On va parler des championnats du monde maintenant, parce que c'est vrai que moi, quand je repense à ces tout récents championnats du monde qui ont titré Julien Alaphilippe, je pense à Guillaume Martin. Alors certes, je n'ai pas passé toute la journée devant ma télé à regarder tout le travail qui avait été fait par les membres de l'équipe de France, qui a été remarquable, mais en l'occurrence, le final, j'associe le titre de Julien Alaphilippe à Guillaume Martin, tellement ton aide a été précieuse. Donc, vous aviez un plan, c'est bien, mais c'est bien d'avoir un plan, mais c'est encore mieux quand il marche. Et là, en l'occurrence, le plan que vous aviez a marché. Toi, comment tu as vécu ces derniers kilomètres d'un championnat qui est d'une longueur folle, il y avait plus de 230, je crois, ou 250 kilomètres. C'est pareil, le plan a parfaitement marché, parce que sur les championnats, vous n'avez pas d'oreillette. C'est bien ça. Voilà, donc la tactique et encore la stratégie est totalement différente que sur un grand tour où là, il y a les oreillettes. Et voilà, c'est pareil. Comment tu l'as vécu de l'intérieur avec tes équipiers, avec Julien Alaphilippe? Comment vous avez vécu ce championnat du monde, ce final? Tout s'est déroulé parfaitement, si j'ai bien vu.
Oui, non seulement on n'a pas d'oreillette, mais en plus on se retrouve avec des coéquipiers qui sont habituellement des adversaires, des personnes qu'on ne connaît pas forcément très, très bien. Donc en quelques jours, il faut réussir à former un esprit de groupe. On est avec un staff aussi qu'on ne connaît pas. Donc c'était étrange, et c'est là où, à mon sens, Thomas Vauclair a été assez bon. Il a réussi à vraiment créer une cohésion de groupe et à mettre en place un plan précis en peu de temps, puisque juste avant on était sur le tour, et ensuite sur le terrain. Après, c'était à nous de jouer. Alors on a pu discuter un peu entre nous pendant la course, même si c'était une épreuve où il y avait beaucoup de... Voilà, il fallait toujours rester placé, donc on n'avait pas tellement le temps de beaucoup discuter, mais voilà, et tout, on est tous pros aussi, donc on sait le faire à l'instinct, et donc tout ça s'est fait assez naturellement.
C'est vrai, quand on voit Pogacar attaquer, bon, on s'est tous dit, bon, il va nous faire encore quelque chose d'incroyable, et non, on voit que le peloton revient, on voit que... Tu roules en tête et tu ramènes le groupe, et le final est juste exceptionnel. La ligne d'arrivée franchie, tu as compris que Julien Alaphilippe avait remporté le titre. En tant que coéquipier, ça doit être un sentiment de travail accompli. Je pense que tu es aussi euphorique et aussi content que si c'était pour toi quand on réalise ce travail-là, et que c'était la mission de chacun des coéquipiers.
Oui, en fait, je l'ai appris, moi, comme on n'avait pas d'oreillette, vraiment en passant la ligne, en faisant mon sprint, puisque j'arrivais dans le groupe pour la place de 7 ou 8e. Donc ça, voilà, vraiment dans le sprint, ça m'a d'ailleurs un peu coupé les jambes pour le sprint, et je ne fais pas un très beau sprint. Et puis après, on s'est tous... congratuler une fois passé la ligne, donc c'était des bons moments. C'était inhabituel pour moi, puisque je suis habituellement leader de mon équipe, donc voilà, c'était un rôle que j'ai pas l'habitude forcément de tenir, voilà, où j'ai eu plaisir à le faire. Après, je pense que je suis fondamentalement leader dans l'âme, mais je suis capable, j'ai montré que j'étais capable de travailler pour quelqu'un d'autre.
Tu l'as magnifiquement montré, en tout cas, vraiment bravo pour tout ce que vous avez fait. Et tu as eu une saison 2020 qui a été, en termes de jours de course, je crois, il y a eu 67 jours de course sur l'année, il me semble, donc un gros kilométrage en course pour toi. Il y a des courses comme ça qui habituellement sont en début de saison, arrivent après. Est-ce que ça a perturbé, je ne sais pas, est-ce que ça a fait bizarre de faire un Liège-Bastogne-Liège si tard dans la saison? Est-ce que ça a une perte de repères pour un coureur professionnel ou pas du tout? Il sait ce qu'il a à faire et il est focus sur ses résultats.
C'était une année exceptionnelle en bien des points. Je pense qu'on l'a tous compris, et on savait très tôt qu'il faudrait s'adapter et sortir des sentiers battus. Donc moi, j'étais OK avec ça. Et je savais qu'à partir du moment où les courses reprendraient, et on les a longtemps attendues, c'était parti pour un long tunnel. Et donc, j'étais OK avec ça. Ouais.
Et est-ce que là, la période, au moment où on enregistre l'épisode, hein, on est tout début décembre, est-ce que tu es déjà dans la saison d'après? Est-ce que tu as déjà quelques idées sur tes objectifs, ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est à définir?
Bah pour l'instant, je suis dans le moment, je suis encore en phase de coupure, donc j'essaye de penser le moins possible au vélo, et puis on aura un stage avec l'équipe mi-décembre, et je pense que voilà, je pourrais en dire plus à ce moment-là sur mon programme et mes ambitions.
Quel est le coureur qui t'impressionne le plus, Guillaume, dans le peloton? S'il y a un coureur qui t'impressionne.
Comme ça, de but en blanc, il y a beaucoup de très bons coureurs. Primoz Roglic, évidemment, par sa régularité, sa capacité aussi à rebondir cette année après la désillusion du Tour. Et je pense que c'est le premier coureur au classement UCI. C'est pas pour rien. Voilà, c'est à mon sens le meilleur coureur du monde aujourd'hui.
Alors, c'est vrai que tu l'as dit en début de conversation, tu n'es pas un coureur qui regarde, qui se retourne, mais tu es quand même au 18 rang mondial aujourd'hui. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est quelque chose qui te rassure, qui te motive, qui ne te fait aucun effet?
C'est justement, à l'heure de faire le bilan de ma progression et d'une saison, c'est quand même quelque chose de marquant et de révélateur. Tous les ans, j'ai progressé dans ce classement et là, je me rapproche vraiment des tout meilleurs, et ça confirme là aussi ces chiffres confirment mes sensations.
Alors, quand on est cycliste professionnel, pardon, là, on va aller sur un autre domaine, qui est le cyclisme longue distance, qui est le cyclisme ultra distance que moi, je pratique. Comment le cycliste professionnel que tu es voit ou regarde, s'il les regarde, les épreuves de vélo longue distance qui commencent à arriver, qui commencent à exploser en France. Pour anecdote, j'avais croisé, puisque je suis l'organisateur d'une épreuve qui s'appelle la Race Across France, une épreuve d'ultra distance, donc qui traverse la France du sud au nord, qui fait 2500 km. Et une fois, j'ai croisé Romain Bardet qui s'entraînait dans le col de l'Isran. Et quand je lui expliquais que les coureurs ne faisaient pas 200 km par jour, mais entre 450 et 600, j'ai vu ses bras tomber le bras du corps. Est-ce que toi, ce type de pratique, tu la regardes, tu l'observes? Quel regard tu as sur le cyclisme ultra distance?
Bien sûr que je suis, je la vois, et je suis conscient que c'est un mouvement de fond aussi de la société, ou en tout cas du sport. Ça se développe de plus en plus, que ce soit sur le vélo ou Ironman, les triathlons, ou alors les courses à pied longue distance. Donc, ça répond certainement à un besoin qu'ont beaucoup de gens de réussir à se dépasser eux-mêmes. C'est toujours ça qu'on cherche. Après, moi, je pense pas que c'est quelque chose qui m'attirerait à titre personnel, parce que je suis justement peut-être trop attaché à la confrontation en direct avec l'adversaire, et j'ai l'impression que dans ce type de d'effort, on est peut-être plus centré sur soi-même et sur son effort. Mais donc, à mon sens, c'est deux choses. Voilà, le cyclisme que je pratique et ce type de cyclisme, c'est deux choses différentes, mais c'est toutes deux aussi respectables. Pardon.
Alors, la personne que la connaissance que l'on a en commun est une personne qui est justement qui est pour moi le pionnier du cyclisme ultra distance en France, qui est Dominique Briand, que tu connais. Dominique Briand est une personne qui a fait partie, on l'appelle le Crazy Gone, peut-être que ça parle à certains. Le Crazy Gone est une personne qui effectivement a été dans mes différentes équipes, a été un pionnier du cyclisme ultra. Et on voit que cette discipline commence à monter, à tel point que j'ai même dernièrement vu Jérôme Cousin qui, après le Tour de France, est parti au Portugal en mode bikepacking. Donc voilà, je voulais juste avoir ton ressenti et ton avis sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent nous écouter, qui se posent la question, mais qu'est-ce qu'un cycliste professionnel, et notamment Guillaume Martin, fait pendant une coupure? Est-ce qu'un cycliste professionnel roule. Est-ce que tu roules? Est-ce que tu fais d'autres choses justement pour te changer les idées? Comment est-ce que tu vis une coupure, Guillaume?
Moi, c'est assez particulier. Enfin, cette coupe, d'habitude, j'aime bien voyager et des voyages un peu exotiques. J'avais été au Népal l'an dernier, au Laos, un peu moins loin, mais j'aime bien voyager. Cette année, c'est très particulier, évidemment, avec le contexte. Et j'aime bien déconnecter, vraiment faire des choses. Je fais plus du tout de vélo et plus du tout de sport. Malgré tout, je suis très, très actif. Et là, pour tout vous dire, je passe cette coupure et encore aujourd'hui à faire de beaucoup de maçonnerie et des corvées de bois, des clôtures, j'ai des ânes, donc voilà, une vie un peu de à la ferme d'agriculteur et j'ai beaucoup de plaisir à ça aussi.
Bon, en tout cas, c'était vraiment très très sympa et très gentil de ta part d'échanger avec nous, de nous partager ton quotidien, ton parcours et tes objectifs. On va arriver sur la fin du podcast. Guillaume, s'il y avait quelque chose à te souhaiter pour l'année 2021, ça serait quoi?
De faire encore mieux, puisque j'ai toujours progressé et continuons la progression.
Bon, très bien. En plus de te souhaiter ça, bien évidemment, dont tu viens de parler, je vais te souhaiter également de lever les bras pour 2021. Je sais que 2020... Tu n'as pas eu l'occasion malgré des résultats incroyables et en tant que compétiteur, j'imagine que tu dois l'avoir dans un coin de la tête. Merci beaucoup Guillaume, du temps que tu nous as consacré et écoute, tout le meilleur pour 2021 et bien évidemment on va suivre ça avec grand intérêt, tu l'imagines. Merci à toi Guillaume.
Merci.